Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir les grilles atomiques et magnétiques, c'est-à-dire le décor du jeu. Donc, c'est une première vidéo par rapport à une série de 4 ou 5 où je vais vous décrire effectivement comment le jeu s'est monté et quelles sont les interactions, bien sûr, avec les différents types de grilles et tout ce que nous vivons actuellement. Hein, car, bien sûr, tout cela est lié. Alors, nous allons commencer par faire un petit rappel. Je sais que c'est toujours important de faire des petits rappels parce qu'il y a des lecteurs qui, comme dirait l'autre, débarquent en cours de route et il faut faire quelques petits rappels. Donc, voilà, donc je repars sur ce dessin hyper basique, on va dire, hein, que je vous avais mis dans d'autres vidéos où nous voyons qu'effectivement, il y a le soleil central, le soleil, la planète, l'individu. Donc ici, nous sommes au niveau d'un concept, ici d'une idée, et ici ben, de l'ère de jeu, dans laquelle les entités vont pouvoir monter à bord d'une voiture pour faire des essais de conduite. Voilà, donc je vais le représenter cette fois-ci un tout petit peu différemment, mais la logique reste identique. Donc nous avons bien, on va dire, l'un, la source, le sans-nom, si vous voulez, qui se trouve bah, de l'autre côté, c'est-à-dire qui vient alimenter le soleil central, qui est donc Alcyone, je rappelle, et que je dénomme généralement grand-père. En effet, grand-père reçoit 100%, on va dire, hein, on prend une base, 100% de l'énergie du sans-nom, c'est-à-dire de l'information qui est fournie par le sans-nom. Ensuite, eh bien, ça passe forcément à travers un filtre et il y a toujours une déperdition et il y en a 80% qui vont aller se répercuter, on va dire, dans le cristal du soleil. Alors, pour des raisons pratiques, hein, j'avais pris ces symboles, ceci étant un cristal, hein, l'aspect, on va dire, masculin, alors que le cercle était l'aspect féminin, eh bien, je peux remettre effectivement les mêmes symboles. Hein, donc ici, ça vient dans ce cristal-là, c'est diffracté, ça va donc dans un autre cristal, hein, qui est celui bien sûr du Soleil. Voilà, et eh bien nous allons effectivement passer ensuite de l'idée à l'ère du bac à sable, comme je dis, hein, c'est-à-dire où il y a encore une déperdition, et nous arrivons au niveau de la planète. Alors, vous pouvez bien sûr imaginer que là, eh bien, il y a aussi un cristal. C'est-à-dire que là, il y a un cristal, hein, que j'aurai l'occasion de revenir pour en parler. Et eh bien, il va y avoir, on va dire, là encore, une déperdition qui va aller en fait à la surface. En effet, ici, si je reprends maintenant par rapport à cela, eh bien, quand il y a un noyau quelque part, il y a forcément un champ magnétique, hein, puisque je vous rappelle que tout est vibration, bon, ok, que tout est vibration et que il y a comme autour de la du noyau du soleil central, on va dire de la planète, eh bien il va y avoir un champ magnétique. Alors ce champ magnétique, nous on l'appelle la grille magnétique, on va voir, c'est kif-kif bourrico la même chose, donc ça pour l'instant je vais le mettre un petit peu à côté. Eh bien, c'est comme, c'est diffus, hein. Vous pouvez imaginer, c'est un petit peu comme l'attraction du soleil. Plus vous approchez du soleil, plus l'attraction est forte, 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 et plus vous éloignez, elle est de moins en moins forte. Il est identique au niveau de la planète. Quand vous êtes le plus proche du noyau, bah, c'est une gravitation très forte. Et puis, bah, quand vous en éloignez, ça devient de plus en plus faible pour arriver à un moment où il n'y a plus suffisamment d'attraction pour retenir les différents corps. Bien. Donc, ça, c'est, on va dire, les grandes lignes générales. C'est-à-dire que nous allons trouver donc un champ magnétique. Alors là, moi, j'ai représenté avec du vide de chaque côté, mais en fait, c'est continu. Hein. Mais vous allez voir pourquoi j'ai fait ça, c'est pour une clarté plus grande. Donc ce champ magnétique est à l'image un petit peu du vaporeux, c'est du gazeux comme on dit, c'est-à-dire comme tout champ magnétique, eh bien ça, il n'y a pas de direction qui est donnée, c'est un petit peu comme quand vous regardez le soleil, vous avez des tas de champs magnétiques, ça bouge un tout petit peu partout, de temps en temps il y a des éruptions, enfin apparemment il n'y a ni queue ni tête, tout en sachant que effectivement même s'il y a un pôle sud et un pôle nord, eh bien ces pôles ça bouge, ça gigote, enfin bref c'est que des courants et ça va un petit peu dans tous les sens. Donc en clair, ça manque un petit peu de cohésion. Et donc, pour pouvoir créer, on va dire, une réalité, car je vous rappelle que la planète a pour objectif d'être le bac à sable. Et donc, comme vous pouvez aussi comprendre, c'est que plus nous descendons, plus nous allons dans la densité. Hein? Puisque ici, on va dire que le Soleil central, c'est quand même la 24e dimension. Ici, ben, on est entre la 12e et la 13e dimension. Et puis ben, là, on est entre la 1 et la 6e dimension. Donc vous voyez que plus on descend, plus on descend dans les dimensions et plus on va dans des vibrations de plus en plus basses. D'où cette difficulté, bien sûr, on va dire au rayonnement, ben, de traverser ces couches, parce qu'elle est obligée, comme dirait l'autre, de se ratatiner et elle ne peut pas passer toutes les fréquences. Donc à chaque fois, comme dirait l'autre, elle perd des morceaux, elle perd des morceaux, elle perd des morceaux, et n'arrive sur la planète qu'une fraction, on va dire, du rayonnement initial. C'est pour ça que si vous avez des entités qui vivent, on va dire, dans ces dimensions supérieures et qui venaient simplement vous voir vous serrer la paluche, vous exploseriez évidemment, puisque c'est comme si c'était des fours à micro-ondes. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de puissance, enfin de puissance en termes de fréquence, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de fréquence que vous, ça vous chaufferait tous les circuits et vous vous volatiliserez littéralement. Hein? Donc, d'où une certaine nécessité, d'une certaine manière, des précautions. Hein? Donc, quand les gens pensent que bah, il suffit qu'un humain monte dans comment dire, dans un vaisseau spatial et aille voyager, ça c'est dans notre monde bien sûr tridimensionnel, mais si dans la réalité un individu, un humain voulait aller au bord d'un vaisseau extraterrestre, eh bien son corps physique ne le supporterait pas. Donc, il y a bien des sas de décompression, on va dire, et de recompression de telle manière que l'individu puisse physiquement aller sur un vaisseau. Donc ne rêvez pas, s'il y a une soucoupe qui vient et que vous montez dedans en disant ça y est, je vais pouvoir me tirer, dites-vous bien que c'est pas on se la joue pas à la Star Trek là. Hein. Il y a donc des conditions, on va dire, vibratoires. Imaginez que vous êtes dans un corps avec le double, la Merkaba, c'est-à-dire avec les doubles tétraèdres, et que ben, vous allez voyager dans le domaine de l'icosaèdre. Il est évident que votre double tétraèdre, il va voler en éclats. Il ne tiendra pas la charge. Hein, d'accord? Donc il y a effectivement une progression, on va dire, à faire. Et donc, vous pouvez imaginer, à l'inverse, quand les acteurs du jeu sont venus ici dans le Soleil, ils étaient bien sûr complets, puisqu'ils avaient bien sûr les 24 dimensions. Hein. Donc je vous rappelle que quand on est au niveau, un esprit directeur au niveau du Soleil, vous êtes dans la pleine maîtrise, normalement, de vos 24 dimensions. Hein, puisque vous êtes au niveau du cube métatronique et donc vous maîtrisez la totale. Mais bien sûr, quand vous allez descendre, on va dire, dans le jeu, eh bien, au départ, vous descendez bien sûr avec une capacité maximale, et on a vu que nous, notre jeu, était surtout l'involution, c'est-à-dire se séparer de nous-mêmes. Donc, comme dirait l'autre, eh bien, nous nous sommes progressivement atrophiés, de telle manière de pouvoir jouer le jeu qu'on était venu jouer. En clair, ben on a perdu pratiquement toutes nos aptitudes et toutes nos capacités. D'où cette tendance naturelle à tout individu à vouloir acquérir des pouvoirs. Alors ces pouvoirs ne sont pas surnaturels, ils sont simplement en nous, mais on est déconnecté par rapport à ce pouvoir. Voilà, donc maintenant je vais continuer, je vais dégager celui-ci. Voilà. Donc là maintenant, eh bien, comme ici, on était dans un paysage, on va dire, très... olé olé, hein, c'est-à-dire un champ magnétique qui bouge à l'image du soleil dans tous les sens, etc., qui n'est pas concrétisé, eh bien, il y a eu l'apport, ce qu'on appelle, de la grille atomique. Alors, pourquoi dit-on la grille atomique? Ben, c'est simple, c'est que à travers cette grille, qui j'aimerais bien qu'elle soit au milieu, eh bien, cette grille atomique, en fait, hein, comme une grille, comme elle le dit, eh bien, va permettre, ni plus ni moins, au champ magnétique de se stabiliser autour de ceci. Or, cette grille atomique, je l'ai déjà parlé en la disant que c'était bah, le côté masculin, la grille, on va dire, électrique, et effectivement, on va voir que c'est ce qui fait, qui fabrique notre réalité. En effet, nous sommes bien dans un champ magnétique, hein, qui s'appelle la gravitation, du côté de chez nous, et c'est à l'intérieur de cette gravitation, donc le magnétisme, l'aspect féminin, eh bien, on y incorpore une grille qui va servir de support et surtout comment dire, de créer une réalité. Et donc cette réalité, nous l'avons appelée atomique, hein, parce que ben, c'est ce qui permet à des atomes de pouvoir être assemblés. C'est-à-dire que l'énergie s'agglutine de telle manière qu'on appelle ça des atomes. Donc le principe même de l'atome, eh bien, c'est la polarité. Donc la polarité, c'est un plus, c'est un moins. La polarité, ça veut dire qu'il y a un noyau et qu'il y a des électrons. Donc il y a bien une attraction, il y a bien un champ magnétique, etc., etc., etc. Donc maintenant, eh bien, pour aller un tout petit peu plus en avant par rapport à ça, eh bien, vous comprenez qu'une fois que la grille atomique est arrivée, eh bien, elle va, entre guillemets, permettre à la grille magnétique ou au champ magnétique de pouvoir se structurer. Un petit peu comme dans un tamis, hein. Donc ici, je vais le représenter maintenant sous une forme légèrement différente. Hein, je vais prendre juste un morceau d'ici que je remets là. Donc j'ai bien un champ magnétique, hein, qui est un espèce d'état complètement gazeux, fluide, n'ayant aucune consistance. Et je lui introduis donc ce que j'appelle la grille magnétique, à la grille atomique. Et donc la grille atomique va... effectivement, attendez, je vais essayer de mettre tout ça correctement, voilà. Et donc cette grille atomique va créer, bien sûr, ce qu'on appelle une réalité, hein, c'est-à-dire que tout ce qui va se former sous forme d'atomes. Quand vous allez soi-disant dans le vide, c'est-à-dire au-delà de la planète, on dit c'est vide. Non, c'est vide d'atomes, mais c'est plein d'autres choses, mais c'est pas vide. Enfin, voilà, hein. C'est pour ça que, juste en passant, comme ça, le zéro n'existait pas il y a 200 ans dans les mathématiques. Le zéro, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, puisque ils savaient, les anciens savaient que le vide n'était pas nul. Donc, ils disaient, pourquoi inventer le chiffre nul? Ça n'existait pas. Nous, ça nous paraît une évidence, mais ça l'est absolument. Ça ne l'était pas pour les anciens. Donc, il a fallu, d'une certaine manière, inventer le zéro. Alors, maintenant, vous pouvez comprendre que là, eh bien, nous avons effectivement, si vous regardez bien, eh bien, nous avons comme un fil électrique. Hein, nous avons quelque chose qui permet au courant de passer. Nous avons un espèce d'isolant qu'on va appeler ni plus ni moins toute la réalité atomique dans laquelle nous vivons, et nous baignons dans un champ magnétique, qui est bien sûr invisible à nos yeux, mais qui est visible par nos sens. D'autres sens, hein, c'est pas par les yeux, quoi. Hein? Alors maintenant, bah, je vais agrandir cette couche de réalité, car je le rappelle, nous sommes dans un bac à sable, donc il faut bien créer une réalité. Donc cette réalité, je vais l'agrandir et je vais vous la montrer comme ça. Alors là, bon, je vais pas dans le détail, hein, j'aurais pu vous amener tout ça tranquillement, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, eh bien, on peut dire qu'entre les deux fils, eh bien, il y a ce qu'on appelle un manteau. Un manteau d'une extrême densité, hein, qui est ni plus ni moins que le manteau ferreux dont les scientifiques parlent. Alors les scientifiques, ils disent, voilà, il y a la croûte terrestre, celle que j'ai représentée ici, et puis ils disent, voilà, en dessous de la croûte terrestre, il y a une espèce de magma, c'est que de la ferraille, hein, d'où effectivement cet aspect, on va dire, électromagnétique, il y a de la ferraille, ça bouge et il y a un noyau. Alors maintenant, je vais représenter le noyau ici, hein, qui est donc le soleil de l'Agartha, le soleil intérieur de l'Agartha, hein, et j'ai mis le centre de rotation. C'est-à-dire, on va voir que c'est le stator, alors que là, c'est le roteur. Parce qu'effectivement, autour de ce centre, eh bien, ici, vous avez une sphère et elle tourne. Elle tourne sur elle-même. La Terre tourne bien sur elle-même. Ça n'empêche pas celui-ci d'avoir sa rotation à lui aussi, mais on a bien quelque chose de fixe, le point de rotation, le centre de rotation, et ici on a une sphère en ferraille, ni plus ni moins. Alors cette sphère en ferraille est à l'image, on va dire, d'une balle de ping-pong, c'est-à-dire que c'est que du vide avec simplement une couche, bon, au lieu que ce soit en plastique, c'est une couche en ferraille, Donc, toutes les mesures faites par nos humbles et vénérables scientifiques correspondent en fait à des champs magnétiques qu'ils mesurent. Alors, ils envoient des ondes, on va dire. Hein. Ils tapent un peu à un endroit, ils disent putain, ça résonne, les gars, juste en face, ça fait ci, puis ça revient. Eh bien, oui, c'est effectivement, quand on va taper sur la croûte ici, eh bien, il y a bien un effet résonance à l'intérieur qui fait à l'intérieur de la sphère et qui fait bouger tout. Donc, il n'y a aucun souci. Simplement, il faut savoir que pour les scientifiques, la Terre creuse n'existe pas. Donc, les intraterrestres n'existent pas, au même titre que les extraterrestres pour la majorité d'entre eux. Donc, quand ils seront sortis de cette théorie, un petit peu comme à l'image de la théorie de la Terre plate à une époque de l'humanité, bien, quand ils se rendront compte que la Terre est creuse et qu'elle n'est pas remplie de ferraille et d'un truc qu'on appelle la lave, parce que la lave est uniquement ici. Bref. Donc, ici, bien, nous allons avoir un effet électromagnétique. Puisque nous avons un courant qui passe ici, hein, dû à la rotation. Parce que ici, cette gravitation qui est donnée est faite, ni plus ni moins, par la circulation d'un courant qu'il y a à l'intérieur. Donc ce courant, bah, il crée une attirance, forcément, d'où cette gravitation. Alors cette gravitation, eh bien, nous allons la voir ici. C'est-à-dire que nous avons déjà, dans un premier temps, ici, la à ce que j'appelle la Terre de surface. C'est-à-dire que nous vivons à la surface, ici. Donc, sur cette surface, il y a bien sûr une couche minérale qui s'est concrétisée au fil du temps. Hein. Et cette couche minérale a ensuite accueilli le végétal, puis les animaux, puis les humains. Et donc, nous avons aussi de l'eau, puisque c'est une condensation d'un gaz, qui ensuite, mis à certaines températures, altitudes, devient bien sûr du solide, mais un solide, on va dire, creux. Hein, puisque si je vous rappelle quand même que si la glace elle flotte, c'est qu'elle est moins dense que l'eau. Sinon, elle sera au fond. Donc, on voit bien qu'il y a une condensation des atomes et nous avons une atmosphère, tout simplement. Donc, jusqu'à maintenant, tout ce qui est la Terre ici, vous comprenez, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, forcément, nous avons nous aussi un Soleil. Donc, c'est le Soleil extérieur hein, que nous recevons directement. Et puis, bah, nos copains, nos frères de l'intra-terre, eux n'ont pas cette chance puisqu'ils sont à l'intérieur de la boule. Alors on se dit, nous on est sur une planète prison, comme vous le savez, bah, ils sont dans la prison et encore emprisonnés. C'est-à-dire que eux, pour voir la couleur du soleil, on va dire, bah, du soleil, la couleur jaune du soleil, ils ne connaissent pas. Et bon, nous aurons dans le futur, je vous refilerai un truc que nos frères intraterrestres nous demandent de faire, mais pour l'instant c'est trop tôt, il y a encore un petit peu trop d'involuants sur cette planète pour comment dire, vous faire passer cette info. En effet, vous pouvez imaginer qu'il y avait avant des communications, hein, comme des tunnels, si vous voulez, entre le monde de la surface et le monde de l'intérieur. Donc, on verra dans une prochaine vidéo que ces tunnels ont été, on va dire, bouchés, non pas bouchés avec du ciment, etc., et puis qu'on prend une pioche et on tape dedans pour le casser, pas du tout, parce que ça, c'est notre vision extrêmement matérielle des choses, une vision 3D, puisqu'ici, nous vivons en 3D, 4D, alors qu'eux, ici, ils sont en 5D et plus. Donc, en fait, ils ont bouché, on va dire, dimensionnellement les portes. En clair, ben vous voyez une montagne avec un rocher, mais vous ne savez pas que le rocher lui-même, c'est la porte. Mais si vous essayez de passer avec votre corps physique, ben vous ramassez le rocher et vous n'allez pas le pénétrer même d'un millimètre. Hein. Donc il faut effectivement avoir la vibration 5D, 6D. Et si vous avez cette vibration 5D, 6D, alors vous pénétrerez à travers cette roche. Parce que cette roche, étant en 3D, 4D, ne vous deviendra transparente. Vous êtes une vibration, je vous le rappelle. Donc, quand on ira effectivement visiter nos frères de l'intra-terre, ça ne sera pas avec un véhicule de 3D, 4D basique en disant « je vais mettre mes paires de lunettes de soleil, ceci, cela, je vais emmener la gourde, ma flotte, mes grolles, ma pioche, etc. » Vous oubliez ça. C'est-à-dire que vous allez y aller avec une autre partie de vous-même, qui est tout simplement vibratoire, mais qui est très consistant, puisqu'en vous, vous serez ici, eh bien, vous boirez un coup quand même, et vous casserez la croûte avec les autres, et vous asseyrez bien sur des chaises autour d'une table. Simplement, ça ne sera pas la même vibration, on va dire, puisque ça, ce n'est pas la même réalité. Voilà, donc ça c'était la Terre de la surface, donc vous pouvez bien sûr imaginer que ici c'est l'intra-Terre. Voilà. Donc l'extra-Terre, hein, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur, on va dire, de la Terre de la surface, c'est-à-dire nos frères qu'on dit galactiques, eh bien ce sont ceux qui se baladent dans les autres dimensions, au bord de soucoupes volantes, de vaisseaux spatiaux, qui sont, je vous le rappelle, des supports biologiques. Hein, c'est-à-dire que quand vous regardez un vaisseau, nous, en bon gros préhumain de 3D, 4D, on se dit, ouais, c'est de la ferraille, ils ont mis des rivets, ils ont fait quelques soudures à droite, à gauche. Dites-vous bien que ce n'est absolument pas ça, car un vaisseau spatial, par définition, est un être vivant qui a des possibilités de transition multidimensionnelle. Et donc, quand vous êtes à l'intérieur de cette entité, eh bien, toute entité qui est à l'intérieur va pouvoir bénéficier de ces transitions dimensionnelles. Enfin bon, c'est toute une autre chose. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc ici, eh bien, vous comprenez, enfin maintenant j'espère que vous comprenez, que ici nous sommes dans un hologramme. Hein, c'est-à-dire, c'est une réalité dualitaire, puisqu'elle est basée sur l'électromagnétisme, donc dualité électromagnétique soumis à la gravitation qui est due à la rotation de la sphère, tout simplement, autour du centre. Si la Terre s'arrêtait, d'abord tout ça, ça déménagerait au-dessus, hein, vous imaginez, hein, c'est comme quand on arrête un véhicule, ben, ce qu'il y a dedans, ça va direction de pare-brise, quoi, hein, ça bouge, quoi. Donc c'est pour ça que la Terre ne peut pas s'arrêter de tourner et croire que quand il y aurait une inversion des pôles, c'est qu'on s'arrête et on repart dans l'autre sens. C'est une idiotie totale. C'est une idiotie totale. Mais bon, ça c'est... On abordera d'autres... ces sujets-là, on va dire, un petit peu plus tard. Sachant que ceci est un champ magnétique, comme je vous l'ai dit. Donc le champ magnétique, lui, peut s'inverser, mais ça tournera toujours, grosso modo, dans le même sens. Et après, bon, on verra... plus tard, hein, on ne va pas aller dans les détails pour l'instant. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous vivons dans une réalité qu'on dit X d'abord, hein, c'est-à-dire féminin, magnétique, avec un axe Y, c'est-à-dire masculin. Donc nous sommes dans un monde électromagnétique avec une composante Z, hein, qu'on appelle tout simplement l'altitude. Donc voilà pourquoi nous avons cette vision, on va dire, tridimensionnelle. Alors cette vision tridimensionnelle, c'est la 3D, tout simplement. C'est-à-dire, ouais, mais bon, et la 4D? Bon, ben c'est simple, comme on est sur quelque chose qui tourne, eh bien ça vous donne une notion temporelle. Donc, si vous voulez connaître donc les quatre premières dimensions, eh bien vous les avez là. C'est une dimension électromagnétique qui a une gravitation. Alors bien sûr, nous on fait l'axe Z vers le haut, vers le ciel, mais ça tire vers le bas, je vous signale quand même. Hein, et donc heureusement. Hein. Et ensuite, eh bien, la quatrième dimension est celle du temps. Et celle du temps parce que ici, eh bien, ça tourne. Ça, voilà. Et donc c'est pour ça que nous sommes coincés, on va dire, dans une granulométrie temporelle, c'est-à-dire que notre planète, la Terre, entre guillemets, tourne sur elle-même tous les 24 heures. 24 heures pile, hein, mais c'est faux. Mais bref, elle tourne sur elle-même. Et donc, c'est pour ça que nous avons cette notion d'une réalité tridimensionnelle avec un temps linéaire. Parce qu'imaginez que si la Terre faisait varier sa rotation tous les jours. C'est-à-dire, un coup, vous avez un jour de 22 heures, et un coup, vous aurez un jour de 36 heures. Ça vous ferait drôle, quand même. Hein. On dirait, ah, Manon, le temps, il n'est pas linéaire. Eh bien, dans la réalité, il n'est pas linéaire. Mais dans notre cas, coincé en 3D, 4D, il nous semble linéaire. Et donc, plus vous allez, entre guillemets, comprendre ce qui se passe en termes de 5D, 6D, hein, puisque je vous rappelle, la 5D, 6D est surtout vouée à l'intra-Terre, eh bien, à l'intra-Terre, eux, ils font le tour comme ça, ça tourne. Mais ils n'ont pas de jour, ils n'ont pas de nuit, je vous signale. Donc, ils ne sont plus soumis à cette dualité comme nous, du tout. Alors bien sûr, ils ont toujours, on va dire, un axe XY et Z. Parce que pour eux, bah bien sûr, la hauteur, ça va bien en direction du centre de la Gartha, hein, donc au niveau du cristal intérieur, du soleil intérieur de la planète. Donc c'est Urantia. Hein. Après, on verra Gaïa, ce sera une prochaine vidéo. Hein. Donc pour l'instant, je parle d'Urantia, qui, je le rappelle, c'est le décor du jeu, c'est-à-dire la mise en place du décor. Donc ici, eh bien, quand nous sommes, on va dire, dans l'intra-terre, eh bien, comme il n'y a plus de jour-nuit, vous n'êtes plus coincé dans une dualité, on va dire, temporelle. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de jour en tant que tel, puisqu'il n'y a pas de nuit. Donc toute personne qui vit sur ce côté de la planète et qui progressivement, on va dire, s'approche de la 5D, bah, commence à avoir des ennuis temporels. C'est-à-dire que le temps linéaire commence à comprendre qu'il y a des jours qui sont très courts, qu'il y a des jours qui sont moins courts, et qu'il y a des jours qui sont encore beaucoup plus moins courts, et en fait, elle ne comprend pas ce qui se passe. Donc il y a une perte de repères temporels, et je pense que tous les gens qui m'écoutent maintenant ont déjà vécu ce genre de choses. Hein, vous avez l'impression de passer 10 minutes à faire un truc, et c'est passé 3 heures. Donc, bah, vous étiez où entre les deux? Ben voilà. C'est-à-dire que les notions temporelles ne sont plus du tout les mêmes. Pourtant, vous êtes toujours dans un corps physique, etc. Hein? Voilà. Hein, bon, j'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai fait comprendre que l'intra-terre existe bien, que le manteau ferreux qu'il y a là, eh bien, c'est lui qui cause cette gravitation, qui fait que nous pouvons marcher là, mais que nos copains de l'intra-terre, eux, ben, comme dirait l'autre, ils marchent à l'inverse de nous. Hein. Mais ils sont toujours attirés par la gravitation. Cette gravitation est due à ce manteau ferreux qui tourne. S'il s'arrêtait, bah, il n'y aurait plus de gravitation. Et s'il n'y a plus de gravitation, bah, on décolle. Et si on décolle, bah, on aura un petit peu de mal pour faire un certain nombre de choses, on va dire. Voilà. Bien, bah, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Donc là, bon, bah, je vais remettre mon petit soleil comme je l'avais mis ici. Mais voilà, donc ce qu'il faut comprendre de comment ça fonctionne cette affaire. Et nous allons voir donc dans la prochaine vidéo, c'est quoi la grille, on va dire les grilles cristallines. Parce que il est évident que nous allons de plus en plus parler de ces grilles cristallines, puisque nous le verrons, les grilles cristallines sont en fait la mémoire du jeu. Hein? Ici, c'était simplement le décor du jeu. Et donc, c'est-à-dire Urantia, tout court, quand elle est arrivée. Hein, puisque Urantia est une entité qui est venue, donc, bien sûr, habiter ce noyau, hein, et qui a, après, progressivement, créé l'environnement du jeu. Donc, cette réalité dans laquelle nous sommes. Mais pour l'instant, il n'y a encore aucun joueur. Donc, nous allons voir comment nous sommes venus, quel chemin nous avons emprunté, et surtout, dans une autre vidéo aussi, comment nous faisons, en fait, pour nous réincarner. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine, et merci de votre attention.